Je m'appelle Camille, comme toutes les personnes qui vivent sur la ZAD. Et je m'appelle pas seulement Camille, hein. Je m'appelle aussi Greg, je m'appelle aussi Michel, je m'appelle aussi Erwan, je m'appelle aussi Nathalie, je m'appelle aussi Catherine, je m'appelle aussi Maurice, je m'appelle Akira, parce que je suis aussi un chien. Et je participe également à la marche jusqu'en Bretagne.
Alors justement, hein, vous rejoignez Lille et Notre-Dame des Landes. Est-ce que vous pouvez nous parler des raisons pour lesquelles vous vous opposez au projet d'aéroport dans cette région nantaise?
Alors, il y en a des milliers, donc on pourrait en parler des heures. Donc, on va en piocher quelques-unes parmi énormément d'autres. Par exemple, bon, déjà, il fait partie de ce qu'on appelle les grands projets inutiles imposés. Il n'y a absolument pas besoin d'un aéroport pour les raisons économiques invoquées. En fait, apparemment, le rapport qui aurait été mis en place, enfin, l'étude qui aurait été menée pour voir s'il était économiquement intéressant de construire cet aéroport, cette étude-là aurait été biaisée. Mais de toute manière, enfin, les règles aujourd'hui de l'économie sont insensées et poussent par exemple à proposer des projets comme celui-ci, alors que on parle peut-être moins qu'il y a quelques années du dérèglement climatique, et c'est pourtant pas un problème qui est résolu. Et à chaque fois qu'on prend un avion, on participe très fortement en très peu de temps au dérèglement climatique. Donc voilà, un projet d'aéroport, c'est complètement insensé dans ce cadre-là. Le territoire qui a été choisi est l'un des derniers poumons verts de la région nantaise. Et c'est ce qu'on appelle une zone humide qui est protégée par des lois européennes parce que c'est très riche en biodiversité. Il faut savoir aussi que l'une des grandes menaces du XXIe siècle, c'est justement toute cette extinction massive qui est en place. Et toute cette biodiversité qui est en train de disparaître. Donc voilà, il y a des grands enjeux comme ça. Et puis il y a des paysans qui sont installés là depuis des décennies et qui, sans autre forme de procès, sont virés de là. Et voilà, on pourrait encore en citer plein des raisons, mais voilà, celles-là font partie de celles que je connais, qui me tiennent à cœur. Mais il y a des milliers de gens qui sont là et qui chacun trouve bien assez de raisons pour participer à ce qui est en train de se passer.
Ouais, cet aéroport a été inventé dans les projets pour accueillir le Concorde. Le Concorde, moi j'ai 20 ans, je sais pas ce que c'est. Il y a 2000 hectares qui vont être bétonnés sur une zone humide, c'est-à-dire en profondeur. Je ne sais pas jusqu'où on va aller, en profondeur de couler du béton. 2000 hectares. Un magasin comme une grande surface, une très grande surface à la périphérie d'une ville, ça mesure 1 hectare 6 de surface commerciale. Un terrain de football, ça mesure 1 hectare. Et là, il y a 2000 hectares qui vont être bétonnés, en surface et en profondeur. Voilà à quoi ça sert. C'est pour un Concorde.
Alors justement, je rebondis là-dessus, je me permets de rebondir là-dessus, parce que vraiment, c'est hallucinant. Effectivement, cette histoire de zone humide fait que les terrains sont très meubles, et donc il va falloir vraiment couler du béton sur une épaisseur vraiment non négligeable, quoi. Le béton aussi nécessite génère énormément de gaz à effet de serre. Une tonne de béton, c'est à peu près une tonne de dioxyde de carbone qui part dans l'atmosphère. Et là, il en faut des tonnes de béton pour recouvrir 2000 hectares de zone humide, de béton pour faire atterrir des avions. Il parle du Concorde parce que ce projet-là, on le traîne depuis 40 ans. Et depuis 40 ans, les raisons de ce projet n'ont pas cessé de changer. Et il y a des gens qui ont toujours trouvé des raisons de faire cet aéroport, qui n'ont jamais été valables, mais c'est pas grave, parce qu'en réalité, ce n'est pas des raisons qu'ils cherchent, c'est juste des prétextes. Parce que si on pose réellement le problème à plat, il n'y a pas de possibilité de justifier cet aéroport.
Projet grandiose comme ça qui risque non seulement de détruire l'environnement, mais aussi détruire les cadres de vie, détruire aussi la volonté des gens de décider pour eux-mêmes.
Le projet doit s'étendre sur 1700 hectares.
C'est un projet inutile et dépassé. Le coût de ce projet est faramineux. Il pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros.
Alors, des grands projets, hein, tout à l'heure tu parlais de grands projets inutiles, des grands projets de ce type, il y en a pas mal en France, hein, chantier EPR, ligne TGV, terminal méthanier, etc. En quoi ce combat contre cet aéroport à Notre-Dame-des-Landes cristallise selon vous une lutte aussi importante, hein, parce que c'est une lutte qui n'est pas seulement dans la région nantaise, mais comme on le voit là, dans toute la France?
Alors pourquoi à cet endroit-là plutôt qu'ailleurs? Parce que y a des paysans qui étaient installés là-bas qui ont décidé de pas lâcher le morceau comme ça, qui étaient très attachés à leur terre et qui n'avaient pas l'intention de se laisser dégager. Et puis il y a des gens un peu bizarres par rapport à ceux qu'on présente régulièrement dans les grands médias. Voilà, des gens qui sortent un peu de cette norme-là, qui se sont dit que ce lieu-là, il les intéressait, qu'ils avaient envie d'y vivre et de faire vivre ce lieu. Alors ils sont arrivés petit à petit, au début pas très nombreux, quelques personnes, quelques dizaines de personnes, puis ils sont devenus un petit peu plus nombreux. Et puis il y a eu une opération policière pour essayer de déloger tous ces gens-là. Et il se trouve que ça a mis en branle tout un réseau de gens qui se posent des questions sur comment est-ce qu'on va vivre là dans les prochaines décennies. Et donc, ils se sont dit, bah, ça, on va pas l'accepter. Et donc, il y a eu cette proposition de rassemblement le 17 novembre sur la ZAD, qui donc, à la base, était la zone d'aménagement différé, qui a été rebaptisée zone à défendre. Et donc, ce jour-là, il y a un peu plus de 30 000 personnes qui sont venues d'un peu partout en France, pour dire, on réoccupe la zone. Il y a des gens qui ont voulu nous expulser de cette zone-là, et ben on vient à 30 000 et on réoccupe cette zone. Et on reconstruit et on construit des cabanes, parce qu'on montre bien qu'on a l'intention d'y vivre. Et les 23-24 novembre, il y a eu une autre opération policière pour venir détruire ces cabanes qui avaient été construites. Mais ce qui est magnifique, c'est que ils sont venus avec un bulldozer et une tripotée de gendarmes mobiles pour essayer de détruire ces cabanes. Ce bulldozer a fait des ornières de 60-70 cm de profondeur sur des mètres de long. J'étais là-bas les 23-24 novembre. Hein, je fais le 23, je me mettais tout nu avec Élise et c'est pour ça que je suis convoqué au tribunal de Saint-Nazaire. Je me suis mis tout nu devant les gendarmes mobiles pour marquer mon opposition aux opérations en cours. Et quand j'y suis retourné quelques jours plus tard, à l'endroit où il y avait eu ce bulldozer, ces ornières, etc., j'ai vu un gars avec une pelle qui était seul à côté de ses ornières et qui prenait une pelletée de boue et qui la remettait dans l'ornière. Et tout seul, ça peut lui prendre des jours et des jours pour reboucher ses ornières. Mais il se pose pas la question. Il a vu une ornière et ça lui plaît pas. C'est une cicatrice qu'il y a dans la terre. Et ben il prend une pelle et il répare cette cicatrice-là. Et moi, c'est ça l'énergie que j'ai vue et que j'ai ressentie en passant quelques semaines là-bas. Ça m'a fait penser à tous ces gamins qui se mettent face à la mer, qui construisent un château de sable, et la marée monte, elle détruit le château de sable, et le gamin il revient au même endroit, et il reconstruit un château de sable. Et la marée monte de nouveau, et le gamin il revient, et il construit encore son château de sable. C'est ça qui est en train de se passer là-bas.
Alors peut-être un mot, puisque tu as parlé de ton expérience là-bas, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette ZAD, à vous y rendre et puis maintenant à participer à cette marche? Est-ce que c'est plutôt une implication militante et politique ou est-ce que c'est finalement le hasard des rencontres?
Moi j'ai un parcours sentimental. Je suis arrivé dans une marche entre Lille et Bruxelles. Pour prendre mon vélo, pour trouver un fantôme qui a disparu. Voilà, j'ai rien à voir avec le militantisme, ou j'ai rien à voir avec tout ça. Et puis je me suis retrouvé à Notre-Dame pour aller voir si le fantôme n'était pas là-bas. Et j'ai vu, je suis allé sur les barricades à 5h du matin. Et bon, ce jour-là, il ne s'est rien passé, donc je suis allé dans un champ, je suis allé faire du Qigong, je suis allé respirer un peu. Et puis j'ai vu le soleil se lever, j'ai vu des nuages roses vers 6-7h. Et en faisant du Qigong, c'est respirer l'énergie. Et j'ai vu, ça ressemble un peu au bocage de la Vénois, le terrain là-bas. Mais la lumière, c'est la lumière de la mer. Alors ça donne une sensation très étrange, la mer dans les bocages. Et ce qui est à pleurer, mais vraiment, c'est vraiment une sensation physique, c'est que on entend le bruit du béton en dessous. On se dit, mais tout ça, ça va être du béton, tout ça, mais jusqu'où? Jusqu'où? Et c'est de la nature, à perte de vue, jusqu'au ciel, avec... C'est vraiment profond intérieurement, ça traverse, et on se dit, mais je vais couler dedans, ils vont me couler dedans, ils vont vraiment me mettre dedans. Et voilà, et maintenant je participe à une autre marche qui retourne là-bas, parce que mais je veux marcher encore, je veux marcher, je veux pas encore mes pieds dans le béton. On dirait la mafia qui foutait les mecs dans les fleuves avec du béton pour pas qu'ils parlent. C'est ça quoi l'idée, c'est du béton.
En ce qui me concerne, quand j'avais 17 ans, j'étais en classe prépa pour savoir quelle était l'école d'ingénieur qui allait vouloir de moi pour que peut-être je fabrique des avions ou peut-être des autoroutes ou peut-être des aéroports. Et j'ai pas eu envie de ça. J'ai décidé de me réorienter et de devenir prof de sciences physiques. Et je me suis demandé à quoi ça pouvait bien servir de demander à des gamins de venir passer quelques heures par semaine avec moi, à essayer de comprendre ce que c'était qu'un atome, une molécule et des choses comme ça. Et donc en creusant ces questions-là, bah, je suis tombé sur le dérèglement climatique avant qu'on en parle beaucoup dans les médias. Et donc j'ai beaucoup réfléchi à tout ça et je suis parti de fil en aiguille dans le milieu associatif pour essayer de faire bouger ces choses-là. J'ai commencé par faire des conférences, en veux-tu, en voilà, et puis j'ai fait du lobbying pour essayer d'interpeller les politiciens, et je me suis rendu compte à quel point expliquer rationnellement le problème ne permettait pas d'orienter leurs décisions pour faire face à ces problèmes-là. Et donc, j'ai appris à utiliser tout un tas d'autres outils, à me familiariser avec d'autres moyens d'action, et donc... De la conférence, je suis parti petit à petit vers des actions plus, parfois plus médiatiques ou parfois moins médiatiques, mais plus qu'on va appeler de l'activisme. Et donc voilà, j'ai fait ça quelques années. Je m'y suis abîmé beaucoup à cause du manque de réaction des gens qui étaient autour de moi, qui avaient l'air d'être endormis par rapport à ces questions-là, abasourdis. Peut-être que c'était trop de problèmes à régler d'un coup. Peut-être que les gens n'arrivent plus... à voir au-delà du quotidien, dans lequel ils sont embourbés comme s'ils étaient avec des kilos de béton aux pieds. Et donc, voilà, moi, à un moment, j'étais au bout du rouleau et j'ai eu besoin de prendre de la distance avec tout ça. Donc, je me suis tenu à l'écart pendant quelques années, et puis j'ai pris le temps de me reconstruire, notamment à travers des activités artistiques dans la rue, en utilisant des costumes, des choses comme ça. Et puis, voilà, enfin... Néanmoins, tout ça, ça n'a pas de sens.
Dans le militantisme, alors.
Alors... Justement, tout ça n'ayant pas de sens et m'étant abîmé dans le militantisme, j'ai décidé que j'avais pas envie de continuer là, essayer de vivoter dans cette société-là, mais j'avais pas envie d'y participer non plus, donc j'ai décidé de partir vivre sur la route avec mon vélo, et je suis parti début juillet. Et j'ai fait 4000 km avant d'arriver à Nantes, en 4 mois, en toquant chez les gens, pour leur demander un bout de pain, un fruit, voilà. C'est comme ça que je me nourris, comme ça que je vis. Avec des gens qui me disent « Ah bah, ton histoire, elle m'intéresse, rentre, mange avec nous, on a une chambre d'amis, dors là plutôt que de planter ta tente. » Voilà. Et de fil en aiguille, je suis arrivé un peu par hasard à Notre-Dame-des-Landes, et j'avais pas l'intention de... Enfin, quand je suis arrivé à Nantes, je savais pas que la semaine suivante, il y avait un rassemblement, et c'est un problème sur mon vélo qui a fait que je me suis attardé sur Nantes, et du coup, je me suis retrouvé le 17 au rassemblement. Sachant que j'allais y être, je me suis dit... Je vais simplement me contenter de réparer quelques vélos, je vais faire ça un ou deux jours et après tout de suite je m'en vais. Parce que je veux pas me faire reprendre dans ces mécanismes-là de militantisme où je me suis abîmé. Et puis ben, finalement, une rencontre le 17 novembre a fait que j'y suis resté quelques semaines et a fait que je suis convoqué au tribunal de Saint-Nazaire le 12 février.
Leur bande de pourris à la botte de Vinci, leur bande de technocrates, social-démocrates, sur nos terres, pas d'aéroport, pas de béton pour ces gros ports, un vide de spéculation, t'as réfléchi et tout pognon, jamais. Nous nourrirons nos gosses, face à vous, on restera féroce. L'heure est de retour à la terre, expulsons leur bande mensongère. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes, renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes.
dans les marcheurs hein, qui relient Lille à Nantes, à Notre-Dame-des-Landes, c'est quoi? C'est une douzaine de personnes, on l'a compris, avec des parcours, des histoires différentes. Un mot quand même sur ce moyen d'action, la marche, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Hein, l'idée, c'est d'aller à la rencontre aussi des gens. Est-ce que c'est un moyen d'action efficace, finalement, pour vous?
Les gens qui sont partis de Lille, simplement, ils ont vu qu'il y avait une marche qui partait de Nice pour aller jusque la ZAD. Et ils se sont dit, Lille, c'est un très bon point de départ pour une autre marche qui pourrait converger également vers Notre-Dame-des-Landes. Alors voilà, ils ont improvisé ça, en n'ayant jamais eu l'occasion d'organiser une marche de ce genre. Il y en a qui y avaient participé, mais qui n'avaient jamais organisé ça. Et donc, dans la précipitation, ils ont dit, bah allez, on va faire cette marche. Et en fait, ils ont tout trouvé en route. Ils savaient qu'ils avaient un rendez-vous à la mairie de Lens à 18h, et ils n'avaient pas prévu d'itinéraire pour aller de Lille à Lens. Ils n'avaient quasiment pas de nourriture dans les sacs. Et en tout cas, c'est sûr, pas assez, clairement pas assez, pour que tout le monde puisse se nourrir suffisamment pour marcher jusque Lens, parce qu'effectivement, ça coûte de l'énergie. Et donc, j'ai dit, ben écoutez, je vais prendre un sac à dos là, puis je vais aller toquer aux portes et je vais expliquer aux gens, bonjour, on est un groupe de marcheurs, on vient de partir de Lille et on s'en va marcher jusqu'en Bretagne là pour s'opposer à l'aéroport. Est-ce que vous auriez un peu de nourriture à nous offrir pour nous soutenir? Et il y avait des gens qui refusaient, et puis on a d'autres qui nous offraient un petit peu, puis d'autres qui nous offraient beaucoup, et puis des gens qui avaient plié l'affaire en 30 secondes, et puis d'autres qui nous retenaient 10 minutes, un quart d'heure pour discuter avec nous. Le lendemain, par exemple, en toquant chez des gens pour leur demander si on pouvait manger la nourriture qu'on nous avait offert chez eux pour se mettre au chaud, bah, ils nous ont ouvert grande leur porte, alors que voilà, ils n'ont rien du tout a priori à faire avec cette affaire de Notre-Dame-des-Landes, ils ne sont pas en train de surveiller ce qui se passe là-bas. Mais ils nous ont ouvert leurs portes, ils nous ont mis à table, et ils nous ont préparé une goutte de café, et puis ils nous ont fait la discussion, et c'était un moment très très agréable. Et voilà, enfin, tout se fait comme ça, très spontanément, avec des gens qui sont a priori pas forcément très impliqués, mais qui parfois le deviennent. Il y a un gars qui est passé à Liévin, d'où on partait dimanche matin, et qui est... voyant qu'on était là et qu'on partait à Arras, a dit « Oh ben tiens, je vais passer la journée à marcher avec vous. » Et donc il a marché comme ça, les mains dans les poches toute la journée, et puis il est reparti le soir en train. Voilà.
Alors tu nous as parlé de comment ça s'était passé pour l'instant, cette marche. Un mot sur la situation là-bas. Quelles nouvelles vous avez de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et notamment il y a eu un concert ce week-end?
Oui. Alors, je pense que vraiment, il y a deux manières d'avoir l'information pour savoir ce qui se passe à la ZAD. C'est prendre le temps de se rendre sur place et de vivre les choses et d'y participer. Et puis, si pour une raison ou pour une autre, c'est un peu trop compliqué, il y a un site internet qui s'appelle ZAD Nadir, qu'on trouve très facilement, et qui est mis à jour quotidiennement par les gens qui sont sur place. Quotidiennement et parfois heure par heure. Donc toutes les personnes qui ont envie de savoir ça peuvent regarder ça. Il y a également un documentaire qui est sorti la semaine dernière, un documentaire de 52 minutes qui s'appelle Notre-Dame des Luttes, qui en une semaine a été visionné un peu plus de 50 000 fois. Apparemment, le festival, malgré tous les bâtons qui ont été mis dans les roues des gens qui sont sur place pour essayer d'offrir cette manifestation festive, le festival s'est pas trop mal passé, disons que... Ça aurait pu se passer dans des conditions plus confortables s'il n'y avait pas eu des gendarmes pour empêcher les gens d'amener leur matériel, aussi bien le matériel pour la musique que le matériel pour que les gens puissent dormir sur place, puisque par exemple, ils ont interdit aux gens d'arriver avec leur tente. Voilà, des choses comme ça. Toute l'installation du matériel... Enfin, il y a des scènes qui n'ont pas pu s'ouvrir à cause de problèmes d'électricité qui n'ont pas pu être réglés. Parce que les gendarmes mobiles empêchaient les gens d'amener le matériel pour mettre ça en place. Mais ça s'est quand même fait. Et il y a eu aux alentours de 10 000 personnes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je ne sais pas, ça dépend des sources. Mais il y a quand même eu un week-end avec des gens qui se sont rassemblés. Il y a eu de la musique et il y a eu cette envie de résister de cette manière-là et de faire vivre ce lieu-là aussi de cette manière-là à ce moment-là.
Peut-être dernière question avant de se quitter, c'est justement sur ce qui se passe là-bas, hein, parce que c'est, vous en avez parlé, c'est le côté aussi important de cette lutte, le côté expérimentation sociale sur place. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'ambiance de cette ZAD, bon, tu l'as déjà fait un petit peu à propos des paysages, mais de vraiment ce qui s'y passe, ce que les gens font là-bas.
Ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que on accepte qu'il y ait plein de modes d'action très différents. Il y a des gens qui s'occupent davantage de contenir toutes les attaques policières qu'il peut y avoir. Et il y a d'autres personnes qui s'occupent davantage de construire la vie du lieu qui serait beaucoup plus paisible s'il n'y avait pas tous ces gendarmes. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui participent à ces deux choses en même temps. Il y a des personnes qui décident de faire des photos, d'écrire des textes. Il y a des personnes qui décident de se mettre toutes nues. Il y a des personnes qui décident de venir à pied. Il y a des personnes qui décident de venir pour un week-end, pour une semaine. Il y en a qui viennent sans savoir combien de temps ils vont rester. Et il y en a qui sont arrivés comme ça, qui sont là-bas depuis plus d'un an, quoi. Et puis, il y a des gens aussi qui décident de lancer des cocktails Molotov et des pavés quand ils estiment que c'est nécessaire. Tout ça, c'est des modes d'action qui sont différents et qui sont acceptés. Le 24 novembre, dans la marche qui se faisait à Nantes, en fin d'après-midi, pour s'opposer à toutes les attaques qu'il y avait eu pendant les deux jours qui venaient de s'écouler, il y avait une pancarte sur laquelle c'était écrit « Continuez, vous nous rassemblez ». Et je pense que voilà, c'est très révélateur de ce qui est en train de se passer. On peut être là pour des raisons très différentes, avec des modes d'action très différents. On a tous réussi à se mettre d'accord sur le fait que cet aéroport, on n'en veut pas.
Camille et donc Camille, deux participants à cette marche qui relie Lille à Notre-Dame-des-Landes, qui était donc de passage à Arras dimanche soir et lundi matin. Aujourd'hui, la marche devrait rejoindre Albert près d'Amiens. Si vous voulez vous joindre à cette marche, le contact est notamment sur le blog, alors c'est un petit peu compliqué, marche.nddl.lillenantes.overblog.com. On mettra le lien sur le site de PFM qui est le www.radiopfm.com. Et puis je vous signale aussi que le LAG, lieu autogéré de Liévin, vous proposera sur ce thème un ciné-débat. Ce sera le vendredi 18 janvier à partir de 20h.
Des gens qui sont là essentiellement pour l'aspect de vie collective et de plantation de potagers, des gens qui ont construit des éoliennes à partir de rien et qui sont autonomes aujourd'hui en électricité, des gens qui ont monté des sambas, des activités de clown, des ateliers d'écriture, il y a une profusion de gens.
Est démolie pour les besoins du chantier de l'aéroport.
Les forces de l'ordre sont à chaque carrefour.
Mardi, c'était la guerre, dit Alain. C'était le premier jour des expulsions des activistes qui occupent la zone à défendre, la ZAD.